Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Claire Servajon.
Bonsoir Charline Vanhoenacker, on vous souhaite un bon week-end ensoleillé et on vous dit à lundi. C'est parti pour le 18-20 du vendredi, 18h15, une semaine en France avec Véronique Margron, la présidente de la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France. L'occasion bien sûr de revenir sur le rapport Sauvé. À 19h, le journal d'Hélène Philly, à 19h20, le téléphone sonne. Quelles solutions contre les déserts médicaux? Des citoyens, des élus se mobilisent. On en parle avec vous tous au 01 45 24 7000. Mais d'abord le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, une affaire inédite de trafic de stupes dans les environs de Rouen. Plusieurs élus locaux arrêtés ce matin par leur raid, dont la maire socialiste de la ville de Canteleu, soupçonnée d'avoir couvert des trafiquants de drogue. On vous en dit plus dans un instant. Il s'appelle Dimitri Mouratov et Maria Ressa, journalistes russes et philippins qui risquent leur vie pour la liberté de la presse, tous les deux prix Nobel de la paix. Nous irons en Russie dans ce journal. À suivre également la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique, des agences d'intérim du BTP épinglées pour discrimination raciale, Bernard Tapie enterré à Marseille sous les applaudissements de ses fans, et puis le choix culture de cette semaine quand TF1 passe du petit écran au très tôt une pièce de théâtre étonnante sur la privatisation de la Une.
France Inter.
Et donc Sébastien, des élus en garde à vue dans une affaire de stupéfiants.
C'est une affaire rarissime, des hommes et des femmes politiques impliqués dans un réseau de drogue. Il s'agit notamment de Mélanie Boulanger, maire de Canteleu, une ville d'environ 15 000 personnes en Seine-Maritime. Elle est aussi vice-présidente de la métropole de Rouen, interpellée donc ce matin par la police avec 18 autres personnes, toutes placées en garde à vue. Un coup de filet dans le cadre d'une enquête menée pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Bonsoir Emmanuel Leclerc. Bonsoir. Alors que sait-on exactement de cette affaire ce soir?
Déjà que 170 policiers, dont certaines unités, vous l'avez dit, comme le RAID et la brigade de recherche et d'intervention, se sont déployés sur une vingtaine de cibles au total en Seine-Saint-Denis, à Rouen, Canteleu et dans l'Eure. Un très important coup de filet, effectivement, en plus de toucher deux élus, la maire de Canteleu et l'un de ses adjoints. L'aboutissement de 2 ans d'enquête, au départ un flagrant délit, une vente des jouets à Saint-Denis aux portes de Paris, avec un dealer normand, des filatures, beaucoup d'écoute pour frapper une famille de Canteleu déjà connue pour trafic de drogue, désormais soupçonnée d'avoir approvisionné de nombreux points de vente autour de Rouen en héroïne. Certains membres de cette famille avaient visiblement leurs entrées à la mairie, en tout cas au téléphone, selon plusieurs sources proches du dossier, d'où la garde à vue déclenchée ce matin contre Mélanie Boulanger et son adjoint. C'est un juge de Bobigny qui dirige ce dossier. Ce soir, le parquet de Seine-Saint-Denis indique que 375 000 euros en liquide ont été saisis au total, ainsi que 15 kilos d'héroïne notamment et des armes à feu, dont une arme de guerre. Les gardes à vue peuvent se prolonger jusqu'à 96 heures au total.
Emmanuel Leclerc, spécialiste police à France Inter. Un Nobel de la paix pour défendre la liberté de la presse. Le comité Nobel a donc récompensé ce matin 2 journalistes d'investigation qui risquent leur existence pour informer leurs concitoyens, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Mouratov. Maria Ressa, fondatrice d'un média en ligne, Rappleur, qui ne cesse depuis 10 ans d'enquêter sur les dérives de la guerre à la drogue menée par le président philippin Rodrigo Duterte. Rien n'est possible, dit-elle, sans les faits. Elle a réagi depuis son pays où elle est actuellement sous le coup d'une condamnation pour diffamation et risque 6 ans de prison. Dimitri Mouratov, lui, est l'un des cofondateurs de l'un des rares organes de presse encore indépendants en Russie, Novaya Gazeta. Donc 5 journalistes ont été tués ces dernières années, parmi lesquels Anna Politkovskaya. Dimitri Mouratov qui a réagi à ce prix depuis Moscou. Jean-Didier Revoin était sur place.
C'est devant une forêt de micros, au pied du bâtiment qui abrite Novaya Gazeta, que Dmitri Mouratov s'est exprimé. En toute modestie, il a reconnu qu'à travers lui, le comité Nobel honorait les journalistes qui avaient payé de leur vie l'exercice de leur métier avant d'égrener leur nom.
Et cette prime, Anna Politkovskaya.
Je ne suis pas le véritable bénéficiaire de ce prix.
Tous ces journalistes ont été assassinés à cause de leurs articles critiques dénonçant les violations des droits de l'homme en Tchétchénie ou le caractère autoritaire du pouvoir russe. Quant à l'utilisation du prix qui avoisine le million d'euros, rien n'a encore été décidé, mais le rédacteur en chef de Novaya Gazeta a évoqué quelques pistes.
Nous aiderons les enfants malades, nous aiderons les médias indépendants et nous aiderons la Fondation Vera. C'est un hospice à Moscou. Tout cela dépendra de la décision de mes collègues de la rédaction.
Quant au Kremlin, il s'est joint au concert de félicitations, saluant le courage et le talent de Dmitri Mouratov, un journaliste qui travaille en suivant ses idéaux et qui a su les conserver. Mais enfin, l'histoire ne dit pas si les bénéficiaires du prix seront classés agents de l'étranger par la justice russe, comme la loi le lui permet. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Ajoutons que le prix Nobel de la paix, Mouratov, aurait préféré, dit-il, remettre sa distinction à Alexei Navalny, bête noire de Vladimir Poutine et opposant emprisonné. En bref, encore à l'étranger, l'un des attentats les plus meurtriers des derniers mois en Afghanistan, au moins 55 morts et des dizaines de blessés après un attentat suicide à la sortie d'une mosquée chiite de Kunduz dans le nord-est du pays. Une attaque pas encore revendiquée qui intervient 5 jours seulement après un attentat contre une autre mosquée à Kaboul, revendiquée par l'État islamique. C'était un pays africain très longtemps critiqué pour ses violations des droits de l'homme. La Sierra Leone a aboli officiellement la peine de mort. Aujourd'hui, les dernières exécutions remontaient à plus de 20 ans. Une nouvelle page d'histoire selon le président Sierra Leone. Une nouvelle page d'histoire va-t-elle aussi s'écrire entre l'Afrique et la France? C'est un sommet d'un nouveau genre en tout cas qui s'est ouvert hier à Montpellier. Pas un chef d'État africain invité, mais 3000 jeunes acteurs de la société civile africaine et de la diaspora. 3000 personnes toutes réunies cet après-midi pour un échange avec le seul chef d'État participant, Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a promis notamment 4 millions d'euros pour le développement du sport sur le continent, mais aussi 30 millions d'euros pour financer un fonds d'innovation pour la démocratie. Une annonce accueillie avec scepticisme sur place. Reportage de Bertrand Galichet.
L'annonce de ce fonds de soutien laisse perplexes les citoyens d'États africains où la démocratie est mise à mal. Ce jeune Guinéen, originaire d'un pays qui a connu un coup d'État militaire en septembre, y croit sous condition.
Moi, je milite pour que les jeunes s'impliquent dans la démocratisation du continent africain. Donc, avoir un fonds dédié, c'est très important, mais il faut l'organiser. Il faut savoir qui gère quoi et assortir le financement d'un résultat. Et il faut que la population cible arrive à en bénéficier.
Maïs, lui, vient du Gabon, un pays dirigé par la même dynastie depuis un demi-siècle. Il attend de la France de la cohérence entre la parole et les actes.
Pour soutenir la démocratie, il faut bien plus qu'un fonds de soutien. Il faut de la cohérence dans les actions politiques et dans la ligne politique qui est mise en place par le chef de l'État. En l'occurrence, on a vu au cours de cette année, au Tchad, un coup d'État où le président Macron s'est déplacé pour aller adouber des putschistes. Et 3 semaines plus tard, nous avions au Mali un coup d'État et la France a condamné ce coup d'État. Du coup, on ne sait pas s'il y a de bons coups d'État et de mauvais coup d'État.
Des Africains souvent demandeurs d'initiatives françaises, mais rétifs à toute ingérence. Montpellier, Sandrine Malon, Bertrand Galichet, France Inter.
C'est une information que vous révélez France Inter ce matin. Des dizaines d'agences d'intérim dans le BTP pratiquent la discrimination.
Oui, c'est le résultat d'un testing inédit réalisé par SOS Racisme. Près de 70 agences franciliennes contactées en quelques jours parmi les 9 principales enseignes de l'intérim. À chaque fois, on leur demande d'écarter les profils non européens, demande totalement illégale mais acceptée par près de la moitié des agences d'intérim. Depuis ce matin, nous avons tenté de joindre ces 9 enseignes concernées. Quasiment toutes ont refusé nos demandes d'interview, toutes sauf une, Claire Chaudière.
La grande majorité des entreprises ciblées, notamment les 3 plus mauvais élèves, Proman, Ergalis et Morgan Service, dont plus de 60% des agences testées ont été prises en faute, ont refusé de répondre à nos questions, renvoyant vers l'interprofession qui, dans un rapide communiqué, se dit, je cite, « interpellée » et prête à prendre la mesure des enseignements de l'enquête sans plus de précision. Seule enseigne a accepté de réagir, Adecco, exemplaire sur cette vague de testing, 100% de refus discriminés, son président Alexandre Viros pointe des résultats dans l'ensemble très inquiétants.
C'est insupportable évidemment pour les victimes et c'est insupportable pour notre pays et c'est totalement contre-productif pour notre économie parce que ça veut dire qu'on refuse d'embaucher des gens qui sont des talents.
Adecco, entreprise secouée elle-même par une affaire de fichage ethnique, des faits vieux de plus de 20 ans mais récemment renvoyés en correctionnel. Depuis, admet Alexandre Viros, beaucoup de chemin a été parcouru.
Ça a été un traumatisme incroyable pour le groupe. Vous réagissez, vous vous mettez en situation de faire en sorte que ça n'arrive plus.
Au-delà de la formation à la non-discrimination, l'entreprise dit travailler avec des prestataires extérieurs indépendants qui réalisent ce qu'on appelle des auto-testing via des appels mystères, méthode apparemment efficace.
Claire Chaudière, enquête à retrouver en intégralité sur franceinter.fr. Il avait piraté le serveur de l'APHP pendant l'été, volé les fichiers de près d'1,5 million de personnes dans le laquelle étaient stockés des résultats de tests anti-Covid. Un étudiant en informatique anti-pass sanitaire âgé de 22 ans a été arrêté et mis en examen. Le dernier hommage des Marseillais à Bernard Tapie, il a été enterré au cimetière de Mazargues cet après-midi dans le sud de la ville. Après une messe à la cathédrale La Major, plusieurs milliers de personnes ont suivi la cérémonie sur l'esplanade. Reportage à Marseille de Cyril Ardot.
2 heures de cérémonie et plusieurs personnalités, notamment locales, mais pas que, qui se sont succédées au micro. Jean-Louis Borloo, ami de Bernard Tapie, Benoît Payan, le maire de Marseille, ou encore Samia Ghali, adjointe à la mairie.
Tu étais l'homme qui savait parler à tout le monde, parce que j'ai jamais essayé d'être ni supérieur ni inférieur, mais être tout simplement toi, avec ton cœur.
Témoignage d'amour aussi des proches de Bernard Tapie. Son petit-fils Rodolphe a dit par exemple sa fierté d'appartenir à la famille.
Adieu Daddy, tu es chez toi maintenant, ici, à Marseille. Et avec Hugo, nous irons t'embrasser tous les samedis et te conter les exploits de notre cher club. À jamais dans mon cœur, Daddy. À jamais le meilleur.
Devant la cathédrale, beaucoup de visages fermés, quelques larmes également. L'émotion est palpable. Christine et Gilbert avaient besoin de venir lui dire au revoir.
C'est toujours très poignant d'entendre des membres d'une famille raconter un petit peu l'histoire de leur grand-père notamment. Moi, ça me touche beaucoup.
Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de souvenirs qui ressortent. C'est un grand moment pour nous et pour la ville aussi.
Après la messe, des chants de supporters, des applaudissements aussi. Puis Bernard Tapie a été inhumé au cimetière de Mazargues à l'autre bout de la ville. Et dès cet après-midi, des Marseillais sont venus se recueillir sur sa tombe. À Marseille, Cyril Ardot, France Inter.
Le monde du football anglais dans la tourmente. Là, c'est le rachat du club de Newcastle qui fait des vagues depuis hier. Newcastle racheté par un fonds saoudien pour plus de 300 millions d'euros. Une décision très critiquée par Amnesty International, mais aussi par la veuve du journaliste saoudien assassiné, Jamal Khashoggi. Une honte, dit-elle, pour le football anglais.
La saga TF1 mise en scène au théâtre.
C'est le défi dans lequel s'est lancé l'auteur et metteur en scène Thomas Quillardet. En 3 heures, il raconte un pan de l'histoire de la télévision française, de passage du public au privé, notamment un spectacle richement documenté créé cette semaine à la Comédie de Reims. Et Stéphane Capron l'a vu pour nous.
Bonjour. De Yves Mourouzi à PPDA, de Claire Chazal à Jean-Pierre Pernaut, tous les journalistes vedettes de l'histoire de TF1 des années 80 sont présents sur le plateau. Thomas Quillardet, le metteur en scène, pour construire sa pièce, s'est plongé dans les archives et a rencontré une quarantaine de journalistes.
Le spectacle, il est vraiment articulé sur 2 choses. La fiction que j'ai inventée, les personnages que j'ai inventés, qui sont fictifs mais très fortement inspirés de personnages réels. Et tout ce qui est de l'ordre des émissions, des JT ou de cette audition de Francis Bouygues, même le coaching, parce que Bouygues a été coaché par Bernard Tapie, c'est des vraies archives. Et c'est les textes tels quels, je les ai très très peu modifiés pour qu'on entende aussi l'écriture journalistique de l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, TF1, c'est moins le cas maintenant, était comme une chaîne dominante. Le 20h était regardé entre 7 et 9 millions de personnes par soir, c'est beaucoup.
La pièce est truffée d'anecdotes. Comme le combat perdu face à Antenne 2 pour couvrir la chute du mur de Berlin parce que TF1 n'avait pas réservé de faisceau, ou la ténacité de Michèle Cotta, la directrice de l'information qui résiste aux pressions de la direction lui demandant d'inviter en direct des annonceurs de la chaîne. Le spectacle passe en revue 10 ans d'actualité, de Tchernobyl au débat présidentiel mémorable entre Mitterrand et Chirac, et nous replonge dans les grandes émissions de TF1 comme le 7 sur 7 d'Anne Sinclair.
Une télévision française de Thomas Quillardet, c'est jusqu'au samedi 9 octobre à la Comédie de Reims, puis en tournée en France, c'était le choix du service culture d'Inter.
Alors on danse. Alors on danse.
Vous aurez peut-être et sans doute reconnu cette chanson qui a fait de lui une star internationale, Alors on danse, de Stromae, l'artiste belge Stromae de son vrai nom Paul Van Haver, qui fait enfin son comeback après 6 ans d'absence, épuisé par un burn-out. Stromae qui remontera sur scène pour la première fois en France l'été prochain, ce sera au Festival de Rock en Seine en août 2022. Alors on est content, Claire?
Absolument, c'est une très très bonne nouvelle. Merci beaucoup Sébastien Legénie. Dans un instant, des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonsoir Jean-Pierre Hamon.
Bonsoir à tous.
Un week-end aux couleurs de l'été indien.
Et oui, nous allons profiter d'un week-end avec de bonnes conditions anticycloniques. Un bémol tout de même, avec des nuits bien étoilées, les grisailles seront nombreuses au lever du jour, en particulier dans le nord-est et le centre-est du pays, mais aussi près de la Garonne, sans oublier le centre, l'ouest parisien et les régions du nord. Mais une fois ces grisailles dissipées, l'ensoleillement sera généreux les après-midi et vous pourrez profiter des belles couleurs de l'automne. Seule l'île de Beauté conservera un ciel plus nuageux avec en prime des averses sur la partie sud de l'île. Et puis côté température, les minimales seront fraîches en fin de nuit. Les maximales seront plutôt douces samedi et dimanche avec des valeurs évoluant entre 17 et 24 degrés.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.